Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti, Julia, je suis ravi de passer du temps avec toi. C'est la première interview qu'on va réaliser de la saison sur Brigade. Et puisque tu es un pur produit Brigade, j'ai hâte d'expliquer à tout le monde ton parcours et tout ce que tu as pu faire au sein de cette boîte qui commence à bien grossir. Alors, pour que tout le monde sache qui tu es, est-ce que tu peux juste donner ton état civil et ton rôle dans cette société?
Oui, bien sûr. Salut Kamel, je suis ravie de passer un moment avec toi. J'ai 31 ans et je suis une des VP Sales chez Brigade. Je suis en charge de notre verticale santé.
Super. Alors, on va creuser toute cette partie santé parce que c'est un nouveau business dans lequel qui accélère très fort là depuis 2-3 ans, depuis le premier confinement. Peut-être que pour comprendre un peu ton rôle, on va essayer de revenir un peu en arrière, comprendre un peu ton parcours, un peu les choix que tu as pu faire côté études, côté boulot, pour voir pourquoi aujourd'hui, quels sont tes enjeux. Et donc, peut-être un peu prendre un peu de perspective sur ce que tu as pu faire avant. Est-ce que tu peux m'expliquer juste dans les grandes lignes où est-ce que tu as grandi? C'est quoi tes études, on va dire, jusqu'au lycée, pour qu'on sache un petit peu comment tu as été formaté?
Ouais, carrément. J'ai grandi en banlieue parisienne et dans l'école, j'étais en école publique. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de partir faire une partie de mon lycée aux États-Unis. J'étais à Boston.
Cool.
Ouais, un moment de ma vie que j'ai adoré.
Au lycée français à Boston?
Ouais, au lycée international à Boston.
Trop cool.
Ouais, c'était génial. C'était une super opportunité. Et ensuite, je suis revenue passer mon bac en France.
D'accord, donc tu n'as pas fait de bac international, tu as juste donc tu as fait jusqu'à la première terminale là-bas et puis tu as passé.
J'ai fait ma seconde là-bas.
Ta seconde là-bas, ok. Et donc tu es revenue pour faire ta première terminale ici.
Ouais.
C'est pas trop déprimant, si. Le retour.
très dur, surtout que j'avais beaucoup aimé le système et la mentalité anglo-saxonne. J'étais pas très scolaire en tout cas dans le système français. Donc j'avais vraiment adoré ma seconde aux États-Unis et donc je suis revenue un petit peu le moral dans les chaussettes. Bon allez, retour en France, je vais passer mon bac français et je vais vite repartir.
D'accord. Donc ça c'était clair dans ton esprit que tu allais faire tes études à l'étranger une fois le bac en poche.
Ouais, c'était assez clair, je voulais absolument faire mes études dans le système anglo-saxon.
Les US, t'as regardé ou pas?
Eh ben, écoute, j'ai pas regardé pour des questions financières essentiellement. C'est hyper cher d'aller faire ses études là-bas, donc non, j'ai pas considéré les US. J'ai très vite considéré l'Angleterre,
ouais,
qui à l'époque était assez abordable pour aller faire des études. C'était même moins cher qu'une école de commerce en France. Donc ouais, j'ai eu l'Angleterre assez vite dans le viseur.
Et toi, t'es l'aîné de ta... Est-ce que t'as des frères et sœurs? T'es l'aîné? C'est quoi ta place dans la fratrie?
Ouais, on est trois. Ouais. Je suis la grande sœur.
D'accord. Donc c'était toi qui ouvrait un peu la voie de des études, quoi faire, et
ouais,
tu devais un peu initier tout le monde à qu'est-ce qui était possible. Je te pose la question parce que parfois t'as des parcours où tu suis ce que ton grand frère ou ta grande sœur a pu faire, et puis donc tu te retrouves en Angleterre. Assez naturellement. Donc là-bas, tu fais quoi comme type d'études?
Et donc là-bas, je commence par une année de prépa. Alors, c'est une prépa à l'anglaise, donc c'est pas du tout la prépa à la française. L'objectif de l'année, c'est de voir quels sont les sujets, les matières qui te plaisent.
D'accord.
Pour ensuite postuler à la bonne licence, on appelle undergraduate là-bas.
Donc c'est avant le bachelor?
C'est avant le bachelor, ouais.
D'accord, ok.
Tu peux choisir de faire cette année qui s'appelle Foundation Year, qui est super quand tu viens pas du système anglo-saxon parce que ça te permet de découvrir une multitude de topics que tu peux étudier là-bas. Et ensuite...
Et puis ça te permet aussi de te remettre à niveau en anglais, j'imagine?
Exactement.
Ok.
Ouais, ok. Et ensuite, j'ai fait un bachelor en commerce international, donc c'est ce que tu étudierais un petit peu ici en école de commerce.
Et tu fais ça à Londres d'ailleurs, c'est où est-ce que tu fais ça dans en Angleterre?
Ouais, je fais ça à Londres, mon bachelor à Londres,
Cool.
à l'université de Westminster.
Cool.
Et ensuite en master, je me repose la question de changer de pays, de repartir à l'étranger. J'ai failli partir en Espagne faire mon master. Et en fait, je suis restée en Angleterre parce que j'ai une école que je voulais absolument avoir.
Quelle
C'est
école?
l'université de Warwick.
Ouais.
Et qui avait un super programme de master dans un topic très anglais qui s'appelle International Political Economy,
Ouais.
le IPE, dans lequel on étudie des relations internationales, on fait de la philo, on fait de l'économie, on développe surtout l'esprit critique l'anglaise. Et je savais que c'était un parcours qu'allait me plaire. J'ai adoré, je me suis pas trompée. Et donc,
Avec une idée de ce que tu voulais faire après, ou c'était vraiment l'idée de continuer à réfléchir, ça fermait pas de porte. Est-ce que c'était ça l'objectif ou?
ouais, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Je savais pas si je voulais travailler ensuite plutôt sur des jobs de commerciaux et plutôt en business, ou si je voulais aller dans des grandes institutions, tu vois, tous les champs
Ah
étaient
oui.
encore possibles. Et en fait, j'ai fait un master dans un sujet complètement différent de mon bachelor, parce que en Angleterre, ça se fait pas, c'est pas trop de faire un master dans un sujet que tu connais déjà, donc
Ah,
t'as
ok.
fait ta licence. Ouais, d'ailleurs, les Anglais font assez peu de masters. Et donc je l'ai fait à l'anglaise. Je vais apprendre un tout nouveau sujet.
Et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà bossé dans un stage? Parce que dans le système anglais, tu as, après le bachelor, en général, une sorte d'année de césure où tu fais genre deux stages super longs ou un stage long. Tu as fait ça à ce moment-là ou pas du tout?
Écoute, je l'ai pas fait. Tu peux le faire, effectivement. Tu peux prendre l'année de césure. Je l'ai pas fait. J'ai fait des stages les étés. J'ai fait un stage dans une grande marque de sport, plutôt en marketing. J'avais fait un stage plutôt sur des fonctions commerciales. Voilà, j'avais mis un petit peu les pieds en entreprise, mais pas pour des longues durées. Et je savais que je voulais partir ensuite voyager un an après mon master.
Ah,
Donc
d'accord, ça
l'idée,
c'était ton plan. OK.
c'était mon plan. Voilà. Donc je savais que j'allais prendre un an off entre guillemets. Donc, il fallait que j'avance quand même un petit peu dans mes études.
D'accord, donc ça c'était négocié avec tes parents, c'était provisionné dans
C'était
tes
pas
comptes.
négo, c'était négocié avec
Ah, c'est pas
moi-même.
mal, c'est déjà une énorme victoire de se mettre d'accord avec ça.
Mes parents étaient très pour que je le fasse.
Oui, et puis surtout en plus, beaucoup dans les pays anglo-saxons, en Australie notamment, ils ont souvent en fait après leurs études, ou avant leurs études, je sais plus si c'est à 18 ou 20 ans, ou juste après.
Tu peux faire les deux,
Les
ouais.
deux, ouais. Ils font une année de off ou ils font une année. Pour découvrir le monde où ils se baladent et en général ça fait partie un peu de leur de le bah du de la manière de grandir quoi après avec le risque je pense de jamais revenir ou de tomber amoureux de je ne sais qui dans un des pays et puis
Ouais.
mais ce donc et toi tu as décidé de faire ça où alors ce...
Moi, je suis partie faire le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos avec une copine.
Ouais
Et c'était exceptionnel.
cool elle s'appelle comment cette copine?
Elle s'appelle Manon.
D'accord. Et donc pendant un an, vous êtes partis ensemble?
Ouais, on est parti 8 mois.
Ouais.
Et c'était génial de vivre sans horaire, sans contrainte. Tu choisis combien de temps tu restes à un endroit. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Si ça te plaît, tu restes un peu plus longtemps. C'était la liberté à l'état
Absolument.
pur. Ouais, c'était génial et j'espère que je le
Ah,
referai.
mais c'est sûr, il n'y a pas de raison. Si Bon, plus t'avances, plus c'est un peu plus compliqué parce que t'as deux, trois trucs à gérer.
Ouais.
D'accord. Donc, tu fais ça pendant une petite année.
Ouais.
Et Manon, elle est dans le même track que toi d'un point de vue purement études. Elle aussi, c'est son
Ouais.
break.
Exactement.
OK.
Ouais.
Donc, c'est votre plan depuis le départ, en fait.
Ouais.
OK. Et donc, le dur retour à la réalité,
Ouais.
comment ça se passe?
Ouais, retour en France chez les parents parce
D'accord.
que
Donc, tu retournes pas en Angleterre, tu retournes directement en France.
ouais, je retourne en France parce que des questions financières aussi, je pars voyager un an, donc je reviens, j'ai plus d'argent, retour chez les parents
Ouais.
après 6 ans à l'étranger. Et là, je me dis, faut vite que je trouve du boulot. Et à l'époque, le le marché il était quand même assez tendu. On était tous assez stressés de pas trouver de CDI.
On est en quelle année là?
Donc là, on est en 2016.
Ok, 2016, ok.
Et donc, je regarde, je mets à fond dans les recherches et je vois un stage, sachant que je savais pas exactement ce que je recherchais. Hein, donc, je regardais un peu toutes les boîtes plutôt connues.
En France uniquement ou aussi en Angleterre?
Je regardais un peu les deux. Et en fait, je vois une annonce dans une grande boîte de la grande distribution. En développement commercial, bon, je me dis, allez, ça peut pas me fermer de porte, j'y vais, je vais voir comment ça se passe.
Et ton CV à ce moment-là, enfin le fait que tu aies fait tes études à l'étranger, c'est un plus, un moins? Les gens comprennent que c'est une bonne chose ou si tu rentres dans le système franco-français
Ouais, j'ai pas senti que ça faisait la différence.
Ok.
Moi, dans ma tête, ça faisait un petit peu
Ça,
la
c'est sûr.
différence parce que j'avais tellement adoré. Mes 4 années passées en Angleterre, que ça m'avait donné une ouverture d'esprit et une confiance en moi que j'avais pas avant. Donc, si tu veux, j'étais bien dans mes baskets au moment de chercher du boulot, ce qui était
Important,
déjà
ouais.
beaucoup, ouais. Et donc, j'ai commencé un stage dans cette grande boîte. J'ai appris beaucoup de choses sur la grande distribution, mais j'ai assez vite compris que c'était pas le type de d'entreprise dans laquelle j'allais m'épanouir, un cadre très très grosse boîte, hein,
Très militaire.
je sais pas, c'était militaire, mais c'était très politique, c'était il y avait des codes à respecter que j'avais pas forcément, en plus en sortant d'études et en venant du système anglo-saxon. J'étais un peu l'ovni qui débarquait.
Donc la boîte c'est Carrefour et
Ouais.
le rôle que tu avais c'est quoi chez eux?
J'étais stagiaire au service développement des ventes. C'était chez Carrefour International.
Ok.
Donc, c'est aussi pour ça que l'offre m'avait intéressée. Franchement, j'ai beaucoup appris. Hein. J'avais un super maître de stage. Je regrette pas du tout ces 6 mois parce que c'était
Mais l'objectif
hyper prometteur.
de Carrefour International, c'était de développer la marque Carrefour dans d'autres pays dans le monde, ou c'était
Ouais,
quoi
c'était
le...
développer le catalogue de produits
Ah, ok.
dans
Donc
différents pays.
sourcer deux produits, c'est ça?
Ouais, alors moi, en tant que stagiaire, je sourçais pas ces produits, mais je travaillais sur leur catalogue international, et l'objectif, c'était de permettre aux magasins à l'international d'avoir accès à un catalogue en ligne qui était bien fait, sur lequel ils pouvaient, eux, passer leurs commandes,
Ah,
choisir
ok.
leurs produits, etc.
Une centrale d'achat digitale.
Ouais,
Ok.
exactement.
Ok. D'accord.
Et donc voilà, je passe mes 6 mois. C'est notamment là-bas que j'apprends l'existence des grilles de salaire qui correspondent au niveau de l'école que tu as fait.
Et donc, puisque c'est une école inexistante.
Donc, comme c'était une école internationale, les grilles n'existaient pas. Et franchement, ça m'a assez choquée. Au-delà du fait que les écoles internationales n'étaient pas dans la grille, surtout le système de grilles que je trouvais.
Inter.
Ah ouais, que je trouvais lunaire, quoi. Pour un job en CDI et pour un job en stage, enfin, c'était ça
Oui.
me paraissait fou, quoi. Je savais pas que ça existait et ça m'a pas plu du tout comme mindset. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas le style de boîte, c'est pas la grosse boîte, en fait, dans laquelle tu vas t'éclater. Et à l'époque, j'avais des copains qui commençaient à rejoindre des startups sur des jobs de business developer. Et ça me parlait bien.
Ok.
Donc,
Donc tu t'es dit pourquoi pas?
ouais, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à regarder un petit peu les jeunes startups dont je voulais arriver assez tôt dans l'histoire d'une boîte.
Mais tu as une démarche structurée avec... tu as regardé toutes les boîtes qui avaient fait, je sais pas, un seed, une série A dans X secteur avec des qualifications de lead ou tu as été plutôt opportuniste?
J'ai ratissé plutôt large. J'ai regardé les boîtes dont on parlait, sur lesquelles il y avait quand même des articles
D'accord.
qui étaient en early stage. Donc, c'est souvent des boîtes qui avaient gagné des pitchs, des petits concours,
Donc il y avait levé de l'argent.
qui avaient levé un petit peu d'argent. Et donc, je rentre dans des process comme ça, dont Brian. Et en fait, j'ai assez vite un coup de cœur pour la boîte.
Pour Fabien ou pour la boîte?
Pour la boîte.
Parce que c'est Fabien qui t'embauche. On
Ouais,
comprendra un peu plus tard,
exactement.
mais d'accord.
Ouais, c'est Fabien qui me recrute, qui était manager de l'équipe sales
À
à
l'époque,
l'époque.
ouais.
Je rencontre aussi Florent et Jean, les cofondateurs de Brigade, avec qui je fit très bien. Je rencontre aussi des sales, donc j'arrivais en tant que troisième business developer.
Wow, ouais.
On devait être une petite vingtaine à l'époque. Je suis très bien avec l'équipe. En plus, il m'invite à prendre un verre, donc ça me permet de parler un petit peu à tout le monde. Donc, je sens vraiment une bonne ambiance. Le produit, la mission me parlait beaucoup, évidemment. Même si à l'époque, on avait la même mission,
Ouais.
valoriser le travail, le rendre accessible à tous, mais on ne la verbalisait pas de manière aussi claire
Ouais.
qu'aujourd'hui, mais on la ressentait quand même, dans les échanges.
Et à l'époque, vous étiez uniquement sur la partie restauration.
À l'époque, on était effectivement uniquement sur la partie hospitalité et j'ai des parents restaurateurs et donc le concept me parlait beaucoup. C'était très concret en fait pour moi.
Et tu as validé le concept en amont avec des parents en disant
Ouais,
est-ce qu'il y a un
c'était
problème de
validé.
staff? Ouais, d'accord.
Je savais que c'était validé pour avoir fait quelques
Quelques
heures
extras.
dans le vaisseau de mes parents, donc ouais, ça, tout me parlait en fait, ça touchait toutes les cases et du coup je suis arrivée chez Brigade.
Est-ce que tu te rappelles à peu près grossièrement les, tu sais les où en était la boîte côté tu vois nombre de brigadeurs, nombre de talents, nombre de restos, tu vois juste pour avoir un ordre d'idée même
Ouais, alors je vais te donner des fourchettes, mais donc on devait être 15-20 salariés. On devait avoir, je sais pas, entre 50, peut-être 50 utilisateurs, 50 établissements, 50 restaurateurs
Ouais.
parisiens qui nous utilisaient, parce qu'à l'époque, on n'était que sur Paris.
Oui, c'est vrai. Avec la solution SMS ou si t'es arrivé à ce
Avec la
moment-là?
solution SMS,
Ah ouais.
donc on n'était pas encore vraiment une plateforme.
Ouais.
Et il devait y avoir une centaine de talents qu'on appelait brigadeurs
À
à
l'époque.
l'époque qui travaillaient via Brigade.
Super. Et ça faisait combien de shifts par jour? Est-ce que c'était une des KPI ou ouais, non, pas. Non, c'était peut-être un peu tôt. L'objectif, c'était juste d'essayer de faire monter la sauce,
Le
quoi.
but, c'était de voir le chiffre grandir.
D'accord. Ok, donc tu arrives, donc tu fais partie des trois premiers sales. Comment évolue ton job dans les 24 premiers mois entre 2016 et finalement et 2018, fourchette large. Comment ça grossit? J'imagine qu'il y a à ce moment-là peut-être une levée de fonds. Comment la partie commerciale se structure et qu'est-ce que tu fais toi de là-dedans?
Ouais. Alors à l'époque, on n'avait pas encore de vrai playbook sales. On démarchait beaucoup par téléphone, mais aussi du physique. C'était un peu
Le Far West.
dépêchez-vous, mais il faut y aller les gars.
OK.
Donc le on regardait des KPI hyper micro, un hein, nombre d'appels passés qu'on regarde encore aussi aujourd'hui d'ailleurs, nombre de rendez-vous faits avec les établissements et nombre de closings, et je me rappelle, on les écrivait à la main sur un tableau. Donc quand tu closais un business, tu venais mettre
C'est
des
vrai?
petits bâtons de
C'est
petites
génial.
barres sur
Ah, putain.
un tableau que toute la boîte voyait, bien sûr.
Bon, ça, c'est Pascal Lam, mais c'était une bonne idée.
Voilà, mais c'était assez cool parce que on avait une super bonne visibilité sur ce qui se passait, et on était vachement encouragés par le reste de l'équipe aussi, qui eux faisaient pas de sales, mais qui étaient contents de voir que on ramenait du business. Donc super ambiance, très très formateur, forcément. Et ensuite on a décidé d'ouvrir des nouvelles villes. Donc à l'époque, on n'était que sur Paris. On s'est dit, OK, la deuxième ville de France en restauration, c'est Lyon.
Ouais.
Et
Qui est une ville pas facile, je pense, à ouvrir.
c'est une ville pas facile, non, c'est plutôt bien débrouillé. Et donc à ce moment-là, on me propose d'aller ouvrir Lyon en tant que sales. Et donc, on part à trois semaines habiter pratiquement 2 mois à Lyon.
Trop cool.
Ouais. C'était génial. Et là, l'objectif, c'était d'inscrire un maximum d'établissements sur Brigade et de faire monter la sauce.
Et il y a assez de talent côté Lyon. Comment vous faites, comment vous gérez les deux parties de la marketplace? Toi, tu c'est l'œuf et la poule, quoi. Est-ce que tu trouves d'abord les clients et après tu t'occupes des talents ou ça marche comment?
Ouais, en fait, quand on ouvre une nouvelle zone, on commence ce qu'on appelle l'acquisition côté talent. C'est des campagnes marketing en ligne qu'on ouvre quelques semaines avant. Et une fois qu'on est arrivé à un nombre de talents, tu vois, minimum, dont on a validé les compétences, là, on envoie les sales.
Okay.
Et on prévient les établissements que Brigade est disponible, qu'ils peuvent poster des missions, etc. Donc, okay. Ça se fait en 2 ans.
Ah bon, c'est ce que vous faites pour Lyon?
C'est ce qu'on fait pour Lyon. L'ouverture se passe hyper bien, j'adore. Et à ce moment-là, on se retrouve du coup avec deux équipes sales, une équipe sales à Paris, une équipe sales à Lyon.
D'accord. Parce que vous devez rester à Lyon pour opérer le business ou?
À ce moment-là, on avait décidé de d'avoir des équipes présentes physiquement.
Ok.
Ce qui était assez utile sur une phase d'ouverture à notre stade de maturité. Parce qu'on faisait encore beaucoup de rendez-vous en physique, on démarchait aussi en physique les établissements. Chose qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui, mais on est mieux équipé en termes d'outils, de playbook, etc.
Et puis de marque et de...
Ouais.
Sur le marché, vous êtes plus reconnaissable et il y a moins de besoin d'éduquer le marché sur cette solution, quoi.
Exactement. Et à ce moment-là, en tout cas, ça avait beaucoup de sens d'avoir des bureaux sur place. On devait être une dizaine de sales entre Paris et Lyon. Et à ce moment-là, on me propose de prendre le management des équipes sales.
Ouais.
Donc Paris et Lyon. Et donc, j'accepte, évidemment.
Cool. Et donc, tu partages ton temps entre Paris et Lyon?
Et donc, je partage mon temps entre Paris et Lyon. Je me retrouve à manager du jour au lendemain plus d'une dizaine de sales, dont certains qui étaient arrivés avant moi.
Cool.
Et donc cool, mais assez challenging. Être manager, c'est un métier. Hein, on apprend, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'était génial et on m'a donné les armes que je puisse y arriver aussi. Mais c'était une période très très challenging.
Et là, tu te mets en mode, t'essaies d'être plus dans ta démarche pour aider finalement les sales à performer. T'es plutôt data driven, t'es plutôt comment tu t'endosses ce rôle de manager? Est-ce que t'as, par rapport à ton background, par rapport à ta sensibilité, est-ce que tu copie-colles un mode de fonctionnement, je sais pas, comme ce que Fabien faisait, ou c'est quoi ton, comment t'arrives à toi-même créer ta propre sauce?
Ouais, là on était dans une phase où on commençait un peu à rationaliser le playbook sales. Donc, à se demander, OK, on passe combien de calls, on prend combien de rendez-vous, on fait combien de closing, combien d'établissements continuent à nous utiliser après, etc. Et donc, j'ai participé à la mise en place de tout ça. En gros, quel est le funnel qu'on a, quel est le funnel qu'on vise. Et donc, c'était une phase assez, assez intéressante. Et après, mais beaucoup d'humains aussi dans mon management. Je suis quelqu'un d'assez, plutôt sociable, plutôt intuitive aussi, donc j'aime bien passer du temps avec mes équipes, ce que je faisais beaucoup à l'époque, et donc j'étais effectivement entre Paris et Lyon. C'était un rythme assez soutenu parce que j'étais lundi, mardi, mercredi à Paris, jeudi, vendredi à Lyon souvent, et donc je faisais ça toutes les semaines. Et d'ailleurs, c'était pas évident parce que je manageais des équipes à distance. Qui étaient des profils sales plutôt
confirmés,
plutôt juniors à ce moment-là, ouais.
Ouais.
Et donc ça s'est plutôt bien passé.
Et là, côté vie perso, t'es le fait d'être par Mons et par Vosges, rarement finalement à Paris, enfin, ou plutôt juste de manière temporaire, t'arrives à le gérer, t'es dans l'euphorie finalement un peu de la start-up qui croit et l'idée qu'on va révolutionner toute une industrie, c'est quoi? Dans ta vie perso, ça ressemble à quoi?
je suis plutôt très contente de ce qui se passe.
Okay.
J'aime bien bouger aussi, donc j'étais à fond, donc j'étais plutôt dans l'euphorie et j'étais hyper hyper heureuse de ce que je pouvais, l'opportunité que j'avais en fait. Et donc c'était plutôt une période assez cool, c'était positif. Ouais.
2018, la boîte continue à grossir. Si on prend finalement la période 2018-2021, avec un 2021 qui va être assez, qui va changer, enfin un 2020 qui va changer la vie de beaucoup de gens aussi, comment ça évolue? Je crois qu'à ce moment-là, il y a encore une levée de fonds auquel je pense Serena participe. Il y a un changement de braquet aussi côté business, parce que je pense que la boîte commence à grossir côté talent. En 2016, je sais pas si t'as, 2018, je sais pas si t'as les chiffres en tête, même les grosses masses, mais en gros, est-ce que tu peux nous donner un peu à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a fait fois 5, fois 10 en talent ou en client? C'est quoi ça ressemble à quoi le business entre 2018 et 2021?
Ouais, à ce moment-là, on est plutôt sur des bonnes croissances à deux chiffres,
ouais.
Des deux côtés, donc côté business et côté talent. On a beaucoup évolué sur le produit, donc on n'est plus du tout sur les SMS, donc
ouais.
les restaurateurs postent leur demande sur la plateforme Brigade. On a un algorithme derrière qui commence à être assez chiadé et qui propose les missions aux talents qui ont envie et qui correspondent à ces missions.
Et d'ailleurs, sur cette partie-là, tu contribues à essayer d'améliorer le produit, l'expérience client, tu récupères des feedbacks de est-ce que les gens sont contents, oui, non, et puis pour que le produit aille dans le bon sens, ou c'est quelque chose pour toi qui est finalement, c'est un outil dans lequel il y a une équipe qui gère et qui en avance?
Ouais, je contribue de manière indirecte, étant au contact
des clients,
des établissements directement. On devait être à cette époque-là une cinquantaine, et donc on se parlait encore tous beaucoup, hein. On pouvait faire des feedbacks, on peut toujours les faire aujourd'hui, d'ailleurs il y a des process en place. À l'époque, je sais plus s'il fallait qu'on fasse nos feedbacks à l'équipe produit de manière très processée ou si on se parlait encore tous dans l'open space, mais dans les deux cas, on avait l'opportunité, ouais, de faire nos retours et donc de participer indirectement au développement du produit. Même si, voilà, l'équipe produit est carrément honneur sur ces sujets-là, mais c'est assez collaboratif, ouais.
D'accord.
Et c'est le moment où, donc effectivement, on commence à être très près en termes de produits, en termes de playbook sales aussi. Et donc, on se dit, allons ouvrir encore des nouvelles villes, puisque l'instillance était très bien passé. À Paris, on commençait à être leader sur notre marché.
Ouais.
Et donc, on décide d'ouvrir presque en même temps Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lille. Tout ça.
Et là, tu vas faire
un
jour par semaine. Donc.
Et donc là, effectivement, on commence à avoir beaucoup de sales. Je pense qu'il devait être une trentaine répartis sur 5 villes différentes.
Ouais.
Et donc là, on s'organise différemment. Fabien, qui était encore mon manager à l'époque, prend le lead sur toutes les équipes en région.
Okay.
Donc plutôt la partie expansion à l'époque. Et donc lui, manager les régional managers qui eux-mêmes manageaient les équipes qui étaient en région.
Ok.
Donc ils étaient physiquement présents et sur les plus petites villes, on avait un régional manager pour plusieurs villes, mais en tout cas on avait des managers qui étaient présents physiquement avec les équipes. Et moi je prends le lead sur l'équipe Paris-Île-de-France.
Ok.
C'était une dizaine de sales à l'époque. Et on avance comme ça avec cette organisation commerciale. Jusqu'à la crise Covid.
Ouais. Et donc, sachant que Paris représente 80% du business encore à ce moment-là. Ouais. D'accord. Donc, on profite quelque chose quand même de très important parce qu'il faut que ça continue, que j'imagine, que Florent et Jean, enfin, c'est à ce moment-là, ils sont sur la route pour aussi lever de l'argent. Enfin, ils se posent des questions de comment financer la croissance. Et donc, le sujet de Paris reste un sujet clé, quoi, dans le PNL finalement de la boîte.
Ouais, carrément. C'était une grosse partie de notre chiffre encore sur Paris. Donc, on avait des grosses équipes commerciales, une dizaine de sales juste sur Paris. Ça faisait quand même, c'était une sacrée équipe. Et ouais, carrément, on avançait à côté en région. L'expansion, c'était pas chose facile non plus. Donc, on avait ces deux challenges en parallèle avec un ownership niveau head off. Et l'idée c'était de croître le plus vite possible sur ces 5 villes et de montrer qu'on pouvait arriver au niveau de Paris
Oui, c'est ça.
sur les autres villes en région.
Et sur Paris, t'avais un split petit compte, petit resto entre guillemets versus grand compte à ce moment-là. Ça commence à se dessiner ou pas encore?
À ce moment-là, alors on était au début de la construction de l'équipe grand compte
Ouais.
que moi je gérais pas du tout. On commençait à travailler avec nos premiers gros comptes et donc on commençait à construire le playbook. Ça représentait petite partie de notre volume d'affaires à l'époque et ça a grandi assez vite. Et donc moi j'avais plutôt l'ownership sur la partie small and medium business
Ok.
à Paris en Île-de-France.
Ok. Bon, on va rentrer dans un épisode hyper intéressant qui est celui finalement du premier confinement. Donc on est quoi? On est en mars là. Il y a le premier shutdown qui arrive. Toi, t'es où? T'es à Paris à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Brigade va vivre 6 mois en fait où on passe de X millions de GMV à zéro. Il faut se réinventer. C'est quoi l'état d'esprit dans l'opérationnel, sachant que la partie gouvernance dans laquelle à l'époque j'étais actif, finalement on a vu ça comme un truc très naturel où Brigade a pris le truc par les cornes et s'est réinventé très très vite en peu de temps quoi. Qu'est-ce que ça donne côté opérationnel si t'as un zoom sur les 3 mois du premier confinement, je suis preneur.
Ouais.
Ouais.
C'était super dur au début. On a perdu plus de 90% de notre volume d'affaires du jour au lendemain quand nos
Ouais.
restaurants ont fermé. Donc on a été très très impacté par le confinement. Ça a été soudain, quoi. Donc il a fallu qu'on réfléchisse très vite. Le premier réflexe qu'on a eu, c'est qu'on s'est dit qu'il faut qu'on garde le contact avec toutes nos équipes. Et donc nous, en tant que manager ou head off, on passait du temps à garder le lien avec ceux qui souhaitaient garder le lien, mais en fait, on se rendait compte que tout le monde avait besoin de papoter, etc. Et nous, en parallèle, en chambre, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on fait en fait, comment est-ce qu'on se retourne. On n'était pas du tout dans un mindset de attendons que ça passe, ça va durer 2 semaines, on verra. On était ça brainstormait, quoi.
Ok.
Et donc on se voyait tous les jours avec les membres C-level, les niveaux VP et DOF.
Donc toi, t'es resté à Paris là, t'es à Paris à ce moment-là?
Moi, à ce moment-là, je suis en Bretagne.
Ok.
Je me suis échappée avant le confinement. Sans voir le confinement venir d'ailleurs, je suis partie avec une paire de chaussettes, un t-shirt, voilà, en me disant que j'allais passer le week-end en
Ouais,
Bretagne.
ok.
Et
C'était un bon move.
c'était un bon move, j'ai passé 4 mois.
J'espère que tu as lavé tes chaussettes quelquefois.
Voilà. Donc ouais, bon, de toute façon, on était tous aux quatre coins, un peu aux quatre coins de la France, une grande partie à Paris aussi. Donc c'était plus ou moins dur pour chacun et on se parlait tous beaucoup et on avait beaucoup de réunions avec toute la boîte, avec nos équipes, etc. On prenait le pouls et à un moment donné on se dit ok, il y a des besoins pour aller aider les agriculteurs parce que à ce
C'est
moment-là
vrai qu'il y a eu cet épisode.
ouais, il y a eu cet épisode, l'agriculture On s'est dit, OK, les agriculteurs ont besoin d'aide pour venir récolter. Je crois qu'à cette époque-là, c'était le moment des asperges, dans le Grand Est notamment. On a développé une certaine expertise agriculture.
Très intéressant.
Et nous, on avait en fait des milliers de talents de la restauration qui se sont aussi retrouvés sans mission du jour au lendemain. Donc on s'est dit, OK, on va contacter les agriculteurs, on va leur demander si on peut les aider et leur proposer de poster leurs besoins de renfort sur brigade. C'est une mission qui serait proposée à tous les talents et qui souhaitent prendre l'air et aider en agriculture et découvrir un nouveau secteur aurait accès à ces missions. Donc on a lancé 40 sales sur le marché de l'agriculture.
Ça s'est fait
sans s'y connaître.
Wow. Okay. Et avec un effet d'annonce qui était assez important parce qu'il y a beaucoup de presse, beaucoup de personnes en ont parlé à ce moment-là.
Ouais. Un effet d'annonce assez cool et nous on était aussi très motivés par cette idée-là et ça n'a pas été facile hein, parce que tu penses dans un secteur que tu connais pas du tout à distance donc former tes équipes dessus suivre etc c'était compliqué donc ça nous a bien occupés mais ça n'a pas été un succès mais en fait, je pense que ça nous a permis de rester hyper dynamique et toujours dans ce mindset de OK, trouvons des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour ces talents? Qu'est-ce qu'on fait pour les équipes et qu'est-ce qu'on fait pour brigade? Et on avait dans un point de notre tête d'ouvrir un jour le secteur de la santé.
Ouais.
Et en fait, la petite partie du volume d'affaires qui continuait à tourner sur le business historique, c'était du chiffre qu'on faisait avec les établissements de santé. En fait, on avait notre branche principale, c'était la restauration commerciale, et on avait ouvert une branche restauration collective au sein de laquelle on avait une sous-branche restauration en santé.
Okay.
Donc, il y avait déjà avant le Covid un certain nombre d'établissements de santé qui faisaient appel à nous, qui possédaient des missions en renfort, en cuisine. Et donc, c'est un petit segment qui a croît de manière assez exponentielle pendant le Covid, donc on avait gardé une partie des équipes sales dessus, bien sûr. Et en fait, ces établissements de santé-là qu'on aidait en cuisine, qui nous disaient « c'est génial ce que vous faites, vous nous aidez bien, est-ce que vous voulez pas ouvrir le personnel soignant ?»
Ok.
Et donc, le contexte était celui qui était à l'époque, hein,
ouais.
On manquait cruellement de personnel soignant. Et on se dit, OK, on avait déjà le truc en tête avant le Covid. Là, ça, c'est une demande de nos utilisateurs. On a 40 sales, on a une force commerciale prête à attaquer la santé. Et donc, c'est à ce moment-là que Nicolas, notre CRO, me dit, Julia, est-ce que tu veux lancer la santé? Donc, je pense que je me marre quand il me le dit parce que moi, venant du secteur de la restauration, je venais d'appeler des agriculteurs. Enfin,
ah
tu
oui.
vois, on était un peu dans un contexte. OK, testons des trucs. Et je lui dis, non, mais Nicolas, on est sérieux, ouais, c'est très sérieux. En plus, ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête et tout. Ça coche toutes nos cases. Il y a un besoin, il y a une demande de nos utilisateurs. Côté talent, c'est un métier qui a besoin d'être revalorisé. On ne faisait que parler du personnel soignant qui manquait de rémunération et de valorisation. Et donc, en fait, c'est une évidence, quoi.
OK.
Et donc, je dis, OK, je prends le,
tu prends
prends
le
challenge.
Mais là, donc, quand Nicolas te donne cette nouvelle mission, toi t'es en mode tu prends une équipe, tu brainstorm, tu bootstrap le truc, tu t'interfaces avec les équipes même produits tech machin, tu fais le truc à la mano, tu fais comment tu gères les, je sais pas moi, les 100 premiers jours pour lancer un nouveau business dans le business.
Ouais, ben écoute, on nous appelait la startup dans la startup.
Ouais, bah oui, ça m'étonne pas.
Et tu veux, je pense que Nicolas m'a parlé ça un vendredi, le lundi j'étais sur la santé quoi. Et donc le mindset c'était un peu écoute, tu prends tes deux meilleurs sales et c'est parti, quoi. Tu remets les mains dedans et je pense que c'était exactement ce qu'il fallait faire, hein. Donc, je me suis remise dans le sales. Tu vois, je suis passée de manager d'une équipe où j'avais même du middle management, en fait,
Ah ouais.
à cette époque-là, à
Tu prends ton
je
téléphone
prends
et...
mon téléphone, je prends mes deux meilleurs sales et on appelle des établissements de santé. Et franchement, c'était assez drôle, hein. À l'époque, c'était, on disait, j'ai besoin d'IDE, mais qu'est-ce que c'est qu'un IDE? C'est un infirmier diplômé d'État. Donc, bah, là, on connaît bien l'industrie, mais on comprenait pas tout ce que les établissements nous demandaient. Et franchement, on y allait avec dans un état d'esprit très transparent. Et voilà ce qu'on fait à la base. On
D'accord.
aide un certain nombre d'établissements de santé à trouver des talents en cuisine. On nous demande de l'aide sur le personnel soignant. Et donc on se lance. C'est quoi vos problématiques? C'est quoi vos besoins? Parlons-en. Et le but, c'est qu'on crée si tu veux, le projet le plus adapté possible. Et de l'autre côté, il y avait une attractivité très forte côté soignant. Chose dont, franchement,
Oui.
on savait pas si ça allait si le modèle allait plaire à côté soignant, parce que travailler à ton compte en étant aide-soignant, auxiliaire de vie, c'était pas commun, en fait, à ce moment-là. Et ça a vachement plu, et c'était d'ailleurs assez cool, parce que donc moi, je m'occupais de l'onboarding de ces talents aussi à l'époque. Donc, j'avais la partie business et la partie talent. Et on avait des aides-soignants qui nous disaient, mais en fait, merci, vous êtes en train de changer ma vie, parce que moi, là, j'allais me reconvertir.
Ah
J'allais
ouais.
changer de métier, en fait.
Ah ouais.
Et là, en me permettant d'exercer mon métier en étant à mon compte, et donc en choisissant les établissements dans lesquels je vais travailler, la mission, en ayant le détail de la mission, en pouvant faire mes feedbacks sur comment la mission s'est passée, etc., en me sentant mieux valorisée aussi de par la rémunération. En fait, c'était un modèle qui était hyper sexy pour eux, quoi. On a toujours un modèle qui est hyper sexy pour eux. Donc, en fait, ça, l'attraction, elle était très forte côté soignant, assez tôt, dans un contexte où on entendait partout aux infos on manque de soignants. Et il y avait une fuite, en fait, qui a toujours aujourd'hui, hein, mais une fuite de ces talents qui avaient envie de changer de métier, en fait.
Et à ce moment-là, on donne des objectifs pour que tu dans ce business-là, alors on donne des ressources, vous êtes trois au début. L'idée, c'est de valider ou invalider finalement la startup dans la startup. Et puisque tu vois que la mayonnaise commence à prendre très vite, puisque j'imagine les 15 premiers jours, en fait, tu fais plein de ventes et en fait, tu tombes un peu de ta chaise, mais parce qu'en fait, l'opportunité est là. Est-ce que rapidement on te dit ok bah très bien bah tu passes de trois sales à vous êtes trois vous allez être cinq six rapidement et d'ailleurs à la fin du mois il faut faire 100 000 euros GMV est-ce que tu vois la maturité du business historique rattrape finalement la startup en disant ok ce qu'on a fait dans la restauration en je sais pas moi en 4 5 ans et ben on va le faire en fait dans la santé en 1 an quoi est-ce que c'est ça l'état d'esprit ou vous êtes plutôt en mode test and learn et on survit.
Non, on comprend assez vite que le modèle il plaît côté établissement et côté talent. C'était pas si facile que ça de vendre aux établissements, parce que on a un modèle novateur,
Ouais.
un modèle de plateforme, et même encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'établissements de santé qui comprennent pas très bien notre modèle.
Ouais.
Il faut faire beaucoup
De
de
pédagogie.
pédagogie. À être aide-soignant et travailler à son compte, c'est quelque chose qui existe. Enfin, même encore aujourd'hui, on en est là. Donc, il y a 2 ans, c'était encore plus compliqué d'expliquer et de vendre le modèle aux établissements de santé, à une industrie qui est relativement peu digitalisée.
Ouais.
Et donc, il y a un gros challenge quand même côté sales. Mais le besoin était là, c'était assez clair, et donc ça prend effectivement au bout de 2 mois, voilà, on se dit ok, il y a une opportunité énorme, faut qu'on aille aider cette industrie. Et là, il se passe un truc génial, c'est que donc on a presque 40 sales, une trentaine, 30-40 sales à l'époque chez MyGut. Donc on se dit, bah, en fait, on va mettre tout le monde sur la santé. Là, on a une force de frappe énorme. Les restaurants avaient ouvert, mais refermés entre-temps. Et donc, on se dit, OK, on met toute la force de frappe sales sur la santé. Et donc, on se retrouve avec Fabien aussi, qui avait une partie des équipes sales à l'époque. À emmener nos équipes sur scène pour
Formater vos
discuter.
équipes sur le métier,
Ouais.
d'accord.
Et donc on a avancé très vite, et dans ma tête c'était plutôt il faut qu'on fasse notre premier million dans moins d'un an, quoi.
D'accord, c'était ça l'objectif. Bah, c'est bien, on revient à des chiffres. D'accord, donc premier confinement, deuxième, troisième, on arrive finalement à la fin de l'année. Les établissements de, enfin, la partie restauration reprend. Tu gardes le scope santé ou quand on revient à une vie quasi normale,
Ouais.
comment ça se réorganise côté sales?
Ouais, les restaurants réouvrent. Là, il faut rendre très vite une grosse équipe sur l'hospitalité. Et donc c'est le scope de Fabien. Et moi, je garde en fait toute mon ancienne équipe qui reste côté santé. Donc toute mon équipe Paris de France qui me suivent en fait sur la santé.
Cool.
Et donc, je peux commencer avec une vraie équipe assez strong que j'avais recrutée, que je connais, avec qui ça se passait super bien. Et on a évidemment recruté dans cette équipe-là. Je crois que j'ai jamais fermé le poste de business developer depuis qu'on a ouvert
C'est vrai.
la santé.
Et parce que vous êtes combien là aujourd'hui sur la partie santé?
Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine.
Ah, ok, quand même.
Ouais.
Et donc, tu chapeautes la santé sur Paris ou la santé partout en France?
Alors, la santé partout en France.
Ok.
On n'est pas encore en Angleterre côté santé. Mais du coup, on est sur quatre villes en France. Et moi, je manage quatre équipes qui sont réparties par marché. Donc, on est sur la partie établissement dépendant, sur le marché plutôt mid-size
Ok.
et sur la partie rencontre aussi.
D'accord. Donc, sur les 2 dernières années, finalement, tu as structuré un peu ton organisation pour couvrir tous les sujets et tu reportes à Nicolas ou tu reportes à Flo
Je reporte à Nicolas.
ou... Ok.
Ouais.
Ok.
Et ouais, on a structuré l'équipe. On restructure les équipes tous les 6 mois. Hein, pour être honnête, on avance avec, si tu veux, avec une visibilité à quelques mois. Et il se peut que quand on découvre une nouvelle opportunité, qu'on décide d'ouvrir de nouvelles villes, etc., on se dit, OK, l'organe la plus optimale, en fait, c'est peut-être pas celle-là, c'est celle-là. Et donc, l'organisation de cette équipe, elle a changé, ouais, bien 3, 4 fois. Et je remercie mes équipes et mes managers d'être autant aussi souples et de le vivre d'une manière aussi positive, parce que c'est clairement le mindset dans lequel il faut qu'on soit. Et j'ai la chance d'avoir une équipe très start-up mindset. Donc,
C'est cool.
c'est vraiment cool.
Et est-ce qu'il y a des parallèles avec finalement la partie hospitality en termes de réorganisation, tu vois, est-ce que le niveau de maturité de la partie hospitality on va dire avant le premier confinement. Est-ce que c'est le même niveau de structuration? On est à ce niveau-là?
Ouais, alors aujourd'hui, pour te donner une idée, la santé, ça représente à peu près 40% de notre volume d'affaires.
Ouais.
Donc,
C'est incroyable.
ouais,
En peu de temps, finalement.
un peu de temps en 2 ans. On n'est pas au même niveau de maturité, dans le sens où on est beaucoup plus avancé sur la partie grand compte
Ouais.
côté hospitalité que côté santé. Puisque côté santé, on a commencé par les petits comptes, puis par le mid-size, et là on s'attaque depuis peu, pardon, aux grands comptes. Et nos équipes sont organisées de manière un petit peu différente. Moi, on me laisse beaucoup de flexibilité du fait que l'on soit encore dans une forte phase de croissance, et donc il faut que je puisse changer les choses très vite. Et donc les équipes sales santé, elles sont pas organisées de la même manière que les équipes sales hospitalité. sans rentrer dans le détail parce que je vais te,
Ouais, tu vas me
je
perdre.
vais te perdre. Mais nous, côté santé, on bosse, les scènes bossent beaucoup en squad.
D'accord.
Et donc j'ai des scènes seniors. Qui travaillent avec des business développeurs plus juniors, qui eux-mêmes travaillent avec des SDR, mais qui pour autant n'ont pas le même manager.
D'accord.
Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse aller très vite sur des comptes hyper ciblés. Et donc on peut mettre une force de frappe assez importante du jour au lendemain si on décide d'aller ouvrir X rencontres de la santé et qu'on veut le déployer. De par mon organisation, je peux, si tu veux, rééquilibrer les forces de frappe par marché, ce qui est assez cool.
Et d'ailleurs, si on parle de finalement de maturité un peu, si on fait le lien avec ton job et potentiellement d'autres VP sales dans d'autres scale-up, comment toi tu te nourris? Alors, il y a peut-être le partage d'expérience de Nicolas. Qui a vu deux, trois trucs chez Airbnb. On verra ça plus tard avec lui. Mais comment toi, tu te nourris sur tes pairs est-ce que tu es très écosystème? Comment tu arrives à. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu rencontres d'autres personnes de ton niveau ou plus avancé? Comment tu arrives à, toi, essayer de récupérer les best practices des uns et des autres pour, en fait, impacter Brian?
Ouais, carrément. Ouais, je parle à pas mal de gens. J'ai effectivement Nicolas qui a vu quelques petits trucs, ouais, chez Airbnb et qui m'aide énormément au quotidien et qui met le doigt sur des choses que j'avais pas forcément vues et qui a un esprit très critique et vraiment un esprit alors pour le coup à l'américaine en fait
ouais.
Et qui m'apporte beaucoup. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai une problématique, j'essaie de voir autour de moi qui aurait pu le vivre, quel autre VP sales, quel autre CRO l'a vécu, et de faire des calls pour échanger, poser des questions. Mais ça se fait aussi dans l'autre sens, on me contacte souvent, et ce qui est assez assez enrichissant parce que on a tous les mêmes problématiques. Et donc je profite aussi de ces échanges pour voir ce qui se fait à côté, quelles sont les best practices.
D'accord. Et juste peut-être on va sur les dernières minutes qui nous restent. On a parlé de business, ça fait 40% aujourd'hui. La santé représente 40% de la GMV globale. Si on tire le trait dans les 24 prochains mois. C'est potentiellement un truc qui pourrait faire 60% ou plus. Comment toi, tu arrives à enquiller comment vous allez enquiller plus de business? Est-ce que c'est en étant encore plus efficient dans l'organisation? Est-ce que c'est en ouvrant de nouveaux pays? Donc, j'imagine qu'il y a l'Angleterre en ligne de mire. C'est quoi tes enjeux là sur les 18 prochains mois dans lesquels tu vas là encore de nouveau te réinventer? Je serais curieux de savoir ça.
Oui. Il y a plusieurs axes en fait à explorer. Il y a effectivement améliorer les performances commerciales et donc ça va passer par des reorgs, des changements de playbook, des meilleurs outils, des process travaillés, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on bosse au quotidien grâce aux équipes SalesOps, Sales Enablement, etc. Les sujets sur lesquels je suis assez impliquée. Et le deuxième axe c'est aller chercher d'autres opportunités. Et donc, il y a effectivement des ouvertures géographiques qui sont prévues. Il y a aussi aller s'adresser à des nouveaux types de business, parce que sur la santé, il y a une liste, je dirais presque non exhaustive, de types d'établissements qui ont des besoins différents. Je te donne un exemple. Il y a quelques mois, on a ouvert la plateforme aux travailleurs sociaux.
Ouais.
Ce sont les éducateurs spécialisés, les moniteurs d'atelier, les accompagnants éducatifs et sociaux. Ce sont des travailleurs qui vont faire des missions dans des établissements qui accueillent les publics en difficulté sociale ou en public handicapé. Ça, c'est des établissements qu'on n'adressait pas il y a quelques mois chez Megad. Et donc, il y a toute une tout un panel de métiers en fait qu'on peut ouvrir. On nous demande souvent dans le sanitaire, donc les hôpitaux, les cliniques nous demandent souvent est-ce que vous allez ouvrir les médecins, quand, etc. On nous parle beaucoup des kinés, on nous parle des sages-femmes aussi. Et donc il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là.
Ben c'est super. Donc ça veut dire que toi, tu vas être fortement occupé. Est-ce que ça veut dire que tu vas aussi potentiellement sur le playbook sur l'ouverture de nouveaux pays? Enfin, je sais que vous opérez maintenant tout le business depuis la France, mais est-ce que vous allez sur la partie santé, notamment au UK, dans lequel vous faites déjà du business en hospitality? Est-ce que ça, c'est un enjeu là sur les prochains mois ou pour l'instant il y a déjà suffisamment à faire en France?
Sur les, alors tu sais, nous on navigue à horizon 4 mois, on va dire.
D'accord, ok.
Donc
Donc dans les 4 prochains mois, tu peux me
les 4
répondre.
prochains mois c'est pas prévu.
D'accord.
On va plutôt se concentrer sur notre business existant, même sur la France. On s'en reparle d'ici quelques mois.
C'est très clair. Et peut-être juste pour un peu prendre un peu de recul là, sur les 6 ans passés chez Brigade, c'est quoi les... Allez, les... deux, trois trucs les plus durs. S'il y en a 15, c'est pas grave. Et peut-être les deux, trois choses dans lesquelles tu es aussi la plus fière de toi, de tes équipes, pour finir sur une note un peu philosophique.
Ouais. Bon, la période la plus dure, franchement, ça a été le Covid, mais ça a aussi été la plus enrichissante, je pense, pour nous. En fait, c'était dur de trouver le bon moyen de s'en sortir, en fait, le bon moyen de relancer le business et de pas être à l'arrêt. Et les moments parce que j'ai adoré, bah déjà je suis très fière d'avoir de ce qu'on a fait sur la santé. Donc voilà, je peux dire que j'ai monté une BU from scratch et que je l'ai amenée à un niveau de maturité assez cool.
Oui, et puis tu l'as fait et refait, parce que finalement, tu faisais partie quand même des pionniers côté hospitality, et là, finalement, tu es reparti d'une feuille blanche,
Ouais.
et donc là, tu as vraiment bouclé la boucle, quoi.
Ouais, exactement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc c'est très cool. Et après, franchement, j'ai plein de très très bons moments en tête que je pourrais te partager
Bon, il nous faut deux,
pendant
trois heures, là.
des heures, mais
Ok. Bon, on va rester là-dessus. Un grand merci, Julia, parce que c'est, je trouve que tu, dans ta formation finalement anglo-saxonne, un peu ce que les Anglais ont de cette positive attitude sur le finalement chaque problème est une opportunité. Tu vois, finalement quand tu parles du Covid et du premier confinement, on perçoit pas du tout une seconde dans laquelle tu te dis ben on baisse les bras et en fait on va attendre que la tornade passe et puis on verra comment on gère la suite. Et je trouve que tu as ce côté en fait très pragmatique mais avec enfin de manière positive hein, sur le fait que tout est possible et qu'en fait c'est juste du travail et de la volonté donc c'est je comprends ton chemin chez Brigade. Je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère surtout qu'en fait le pôle santé fera 80%
Ouais.
dans 36 mois, ce qui est totalement possible vu la profondeur de marché. Et puis j'ai hâte d'écouter cet épisode et le reste des talents de Brigade.
Moi, ben, j'ai passé un super moment. Merci à toi, Camille, aussi.
À très bientôt.
À bientôt.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.